Aujourd'hui.
Service compris.
Cohabitation pour le meilleur ou pour le pire. Tout le monde ou presque a vu L'Auberge espagnole, hein, l'excellent film de Cédric Clapiche sorti il y a exactement 20 ans. Ça date avec Romain Duris, avec Audrey Tautou et Cécile de France. Dans ce film, on suit de l'intérieur la vie en communauté de plusieurs étudiants de langues et de cultures différentes. Par moments, ça se passe bien, par moments, un peu moins bien. Bonjour Lise Jean-Bourquin.
Bonjour Mike, bonjour à tous.
Comment allez-vous Lise?
Oh, mais je vais merveilleusement bien.
Je suis toujours content aussi de vous retrouver. Hein. Vous êtes psychokinésiologue à Fribourg. Vous êtes intervenante régulière dans Service Compris, notre émission de service tous les mercredis sur Radio Fribourg. Alors d'accord, Lise, hein, L'Auberge espagnole que vous avez vue, je crois. Hein.
Oui, il y a fort longtemps.
C'est du cinéma, mais il n'empêche que ce film est riche en enseignements. Par moments, tout le monde est super copain. Par moments, il y a de l'incompréhension. Par moments, il y a même des fâcheries entre ces personnes qui ne se comprennent pas toujours, au sens propre comme au sens figuré. Je serais tenté de dire... C'est comme dans la vraie vie, Lise. Hein.
Et oui, c'est la richesse de l'être humain. Mmh. Des émotions dans tous les sens.
Il vous branche ce sujet, cohabitation pour le meilleur ou pour le pire. Lise, vous avez choisi quelque part, on l'a choisi ensemble. Hein.
Oui, tout à fait. Moi, je trouve hyper intéressant parce que très large aussi. On parle déjà de cohabitation quand on se met en couple, par exemple, et puis voilà. Quand on commence une nouvelle vie à deux, ou quand on est étudiant et qu'on cherche un endroit pour se loger. Quand on accueille des réfugiés ukrainiens à la maison, on voilà. Est aussi dans une nouvelle forme de cohabitation.
Exactement. On aura l'occasion d'en parler aussi tout à l'heure.
Je trouve que c'est vraiment hyper riche d'en parler ce matin.
Et pour témoigner avec nous ce matin dans cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir Mélanie. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Mélanie qui a une sacrée expérience de cohabitation. C'était il y a un ou deux ans, je crois. Hein.
Il y a une année et demie, je suis dans une colocation avec six autres personnes.
Six autres personnes, waouh. Comment vous est venue cette idée d'habiter comme ça à sept dans une même maison?
Alors, c'était un moment où je sortais de chez mes parents et je ne voulais pas habiter seule. L'idée de rentrer chez moi après le travail, d'être toute seule, avec personne à qui raconter ma journée ou échanger, c'était quelque chose de triste que j'avais en tête. Et du coup, je suis partie à la recherche de colocation, en faisant des recherches sur Internet, en visitant.
Ouais, mais quand même, un, deux colocs, mais six colocs, faut le vouloir, Mélanie, quand même. Hein.
Oui, je voulais que ça bouge un peu, effectivement.
Et est-ce que ça bougeait vraiment?
Oui, ça bouge.
Vous en gardez visiblement une très bonne expérience. Hein.
Alors nous, on a une colocation qui se passe super bien, effectivement. Il y a eu beaucoup de changements où il n'y a qu'une personne que je connais depuis le début que je suis arrivée.
Ah, parce qu'il y a eu un roulement, en plus, c'est pas les mêmes...
Oui,
d'accord.
Oui.
Ouais. Ah bah c'est intéressant, on va découvrir cela avec vous Mélanie, vous restez avec nous évidemment dans Service Compris, on verra que la cohabitation ça peut aller de la colocation en tant qu'étudiant à ses grands enfants hein, qui tels des tanguis refusent de quitter le nid et en s'étant troublés, Lise l'a dit tout à l'heure, certains de nos concitoyens avec un corps gros comme ça ont fait le pas, ils ont accueilli des réfugiés de guerre chez eux, nous on vous invite en tout cas chaleureusement à partager ces riches expériences de vie avec nous, avec tout le monde sur le WhatsApp de Radio Fribourg au 079 127 70 60, cohabitation pour le meilleur ou pour le pire. On va commencer dans quelques instants avec Mélanie qui va nous raconter plus longuement ses belles expériences de vie. Sept personnes dans une même et grande maison. On a plein de choses à vous raconter sur Radio Fribourg. Stéphane Echer, 20.
Radio FR. Service compris.
Service compris.
Bon, faut-il être ami pour être en colocation? On parle colocation, on parle cohabitation aujourd'hui dans Service compris. J'ai envie de vous mettre dans l'ambiance tout d'abord avec ce petit bout de bande-annonce.
Tout a commencé là.
Je dois pouvoir t'aider pour te trouver un poste.
Hablas espagnol.
Tu connais l'Espagne?
Ouais, je connais un peu Ibiza.
Je suis triste que tu partes.
C'est à partir de là que j'ai décidé de partir un an en Espagne.
Et vous parlez espagnol?
Hablas espagnol?
Eh oui, L'Auberge espagnole, le film culte, le film symbole justement des personnes qui sont en cohabitation. Pour une fois, Lise Jean-Bourquin, nous avons vu le même film. Hein,
exactement.
C'est pas très souvent que ça arrive. Hein.
Il y a comme un petit décalage de génération.
C'est vrai que Lise a tellement des meilleurs goûts musicaux et cinématographiques que moi, que des goûts tellement plus évolués, c'est pour ça qu'on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Oh, vous vous souvenez bien quand même de cette Auberge espagnole?
Oui.
Il vous a plu ce film qui est sorti il y a 20 ans?
Oui, j'avais beaucoup aimé.
Voilà.
Oui, tout à fait.
Et vous avez l'impression que c'est comme ça vraiment que ça se passe, la cohabitation?
Ah, moi je pense qu'il y a des clichés qui se retrouvent dans certaines colocs. Après, voilà, comme tout film, bah, il y a des choses qui sont bien romancées.
Mélanie n'a même pas vu L'Auberge espagnole, vous vous rendez compte?
Non, la honte, non, pas encore.
Pourtant, ça aurait pu vous donner un avant-goût de ce qu'est cette merveilleuse aventure de la colocation dans laquelle vous êtes actuellement. Hein.
Mais oui.
On rappelle que vous habitez. Alors, au départ, c'était le nombre qui était prévu. 7 dans une grande maison, parce que vous y êtes toujours, est-ce que vous êtes toujours 7 à l'heure actuelle?
Je suis toujours dans cette colocation, nous sommes toujours 7.
Ouais.
Je suis arrivée en fait avec des gens que je ne connaissais pas. C'était une 7e personne qui changeait, qui partait, et la chambre était à louer. Donc ce n'était pas forcément des amis ou un entourage connu, même pas du tout. Et les gens qui arrivent ne nous connaissent pas en fait.
Mmh. C'est un univers de quelle personne? Vous êtes par exemple dans le multimédia, vos colocataires, ils étaient dans quel domaine?
C'est souvent des domaines artistiques ou sociaux. Et on a un architecte, on a une ébéniste, on a une graphiste. Donc c'est des gens qui sont, pour nous en tout cas chez nous, plutôt actifs. On avait une étudiante aussi, donc très large, très colorée dans les activités. Et c'est aussi de l'aide à la maison, souvent pour réparer quelque chose ou pour aider à quelque chose. C'est assez pratique.
Lise Jean Bourquin, psychokinésiologue, c'est important vraiment dès le début dans une colocation d'être avec des personnes qui sont un peu, on va dire, dans la même mouvance, un peu artistique, on va dire, quelque part sur les bords. Hein.
Moi, j'ai l'impression que que c'est important de pouvoir nommer les choses dès le départ, à savoir qu'est-ce qui est important pour nous, quels sont nos besoins, etc. Après, l'horizon professionnel, j'ai envie de dire, tant qu'on a les mêmes valeurs d'un point de vue humain, c'est un petit peu égal. Là, effectivement, on peut quand même entendre qu'il y a un architecte, qu'il y a quelqu'un dans le graphisme, qu'il y a des travaux, enfin des personnes qui travaillent plutôt dans le manuel. Donc je pense que ça peut aussi être hyper complémentaire d'avoir des horizons différents à ce niveau-là.
Est-ce que vous avez un très bon, un très mauvais souvenir de cette colocation, Mélanie, sans fâcher évidemment vos éventuels colocataires qui peuvent écouter Radio Fribourg en ce moment, hein.
Alors effectivement, j'aimerais retourner chez moi après cette émission. Le mauvais souvenir, c'était quand je suis arrivée, un colocataire qui fumait à côté dans sa chambre ou qui faisait certains bruits que je ne vais pas nommer ici. C'était en fait, quand on va dans une colocation, on respecte certaines règles qui sont établies, surtout quand on est autant.
C'est important ça.
Et c'est vrai que dès que ça dérange une majorité, on va essayer de régler les choses. Et puis les bons côtés, les bons souvenirs, c'est la communauté, le vivre ensemble, c'est les activités qu'on fait ensemble, c'est un jardin qu'on aménage ensemble comme un enfant quoi.
On sent que vous êtes quelqu'un de très sociable et vous êtes rayonnante de parler de cette colocation, ça fait toujours plaisir. Mais juste pour revenir sur l'épisode de cette personne qui fumait, ça s'est arrangé comment? Enfin, ça s'est arrangé, rassurez-nous.
Alors, ça s'est arrangé, mais comme il y avait d'autres contraintes qu'elle ne respectait pas, au bout d'un moment, ça coinçait. Et en fait, je pense que quand on ne se sent plus en accord avec le reste de la coloc, et ben c'est comme cette personne est partie. Elle s'est trouvée aussi une autre colocation avec, en l'occurrence, des amis à elle, avec qui elle se sentait bien. Et puis elle pouvait se sentir aussi plus libre, parce que je ne pointe pas non plus le doigt sur cette personne, parce que chacun a ses besoins, ses envies, mais je pense que chacun peut trouver la colocation qui lui correspond le mieux.
Ouais. Vous avez entendu Lise Jean Bourquin, il faut dès le départ poser des règles, dès le départ poser un cadre de vie, parce qu'autrement ça devient vite invivable pour toutes les personnes de cette cohabitation. Hein.
Oui, alors on sait très bien que s'il n'y a pas des règles communes, une organisation commune, eh ben, ça peut vite clasher dans un sens ou dans l'autre. Maintenant, c'est difficile aussi de poser un cadre quand on ne se connaît pas, parce que soit on pose un cadre qui est très 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 serré et là on se sent un peu étouffé là-dedans et ça nous laisse peu de marge de manœuvre, ou alors le cadre est vraiment très large et là ça peut venir vite tout et n'importe quoi. Donc moi, ce que je pourrais juste conseiller en fonction des moindres connaissances que j'ai à ce sujet-là, c'est de se laisser la possibilité d'expérimenter et de faire le point régulièrement, parce qu'on sait que tout changement engendre un certain inconfort. Mmh. On sait très bien que l'inconfort de notre zone de confort est quand même bien plus confortable que l'inconfort lié au changement.
Vous suivez
C'est pas la première fois que je l'ai dit, puis je ne vais pas finir de la dire, je pense, mais c'est vraiment très important. Le cerveau n'aime pas le changement. Donc, dès le moment où on a un changement de vie qui est autant radical, il faut se laisser la possibilité d'expérimenter, même si c'est inconfortable au début. Mais c'est important de faire régulièrement le point. J'imagine que vous vous retrouvez régulièrement pour discuter de ce qui pourrait aller ou non, pour pouvoir réajuster. C'est aussi important de réajuster. Des fois aussi, en tant que parent, on dit, on pose un cadre, et puis le cadre est tellement rigide qu'à un moment donné, tout le monde étouffe dans ce cadre, mais à aucun moment on cherche à revoir si on peut bouger un peu ce cadre.
Ouais, parce que la famille, voilà, c'est une forme de cohabitation parmi tant d'autres.
Hein, oui.
C'est un peu spécial parce que c'est une cohabitation de gens qui partagent le même sang, et c'est une cohabitation qui est amenée à durer parfois un peu plus longtemps qu'une cohabitation du type colocation. Sinon, toujours, j'ai trouvé l'exemple que donnait Mélanie très intéressant par rapport à la fumée. C'est peut-être quand on passe une annonce, dès le départ, quelque chose à mettre. Hein, si vous avez 6 personnes qui sont non-fumeuses, vous mettez tout de suite dans l'annonce au départ, préférence sera donnée à une personne qui ne fume pas. Hein. Comme ça, on pose des cadres dès le départ, il n'y a pas de frustration par la suite. Hein.
Mais tout à fait. Du reste, Mélanie, quand vous avez une place qui se libère, comment vous procédez ?
On fait une description en fait, de la colocation. On décrit vraiment, nous, par exemple, c'est très calme. Quel type de personne il y a ? Ça veut dire qu'on donne les noms. Comme ça, c'est tout de suite plus personnel. Mmh. Et puis, on donne les métiers, parce que même si on n'écrit pas les personnes par leur métier, ça donne quand même une ambiance générale. Donc, dès le départ, il ne faut pas mentir. Enfin, nous, on est plutôt calme. Vers 10h le soir, tout le monde est couché parce qu'on est tous actifs, on se lève le matin.
Bien sûr.
Ouais. Comme ça, ceux qui veulent une colocation un peu plus fêtarde, donc guillemets, ils savent que ce n'est pas chez nous. Sauf de temps en temps le week-end. Oui, poser un cadre, en fait. Mettre une annonce sur les réseaux sociaux, par exemple.
À 7, dans une grande maison, c'est l'expérience de Mélanie. Et puis, notre question du jour sur Radio Fribourg, qui trouve son prolongement dans Service Compris jusqu'à 9h. Cohabitation pour le meilleur ou pour le pire? On en parle avec Lise Jean-Bourquin, notre psycho-kinésiologue. Alors, il y a différents types de cohabitation. Il y a notamment des personnes généreuses, on les salue, qui ont osé l'accueil de réfugiés ukrainiens, des personnes qui ont vécu la guerre, qui sont d'une autre culture. Comment ça s'est passé? On aura peut-être quelques témoignages également à relayer dans quelques instants. Ça sera dans la suite de Service Compris, juste après l'info de 8h30 avec des Fribourg.
Radio FR. Service Compris.
Service Compris.
Toujours en compagnie de Lise Jean-Bourquin, notre psychokinésiologue maison, intervenante régulière dans Service Compris. Toujours un plaisir de passer une petite heure en votre compagnie, Lise.
Mais le plaisir est partagé.
Tellement sympa ce sujet que vous avez choisi pour nous aujourd'hui, cohabitation pour le meilleur ou pour le pire. Et puis pour illustrer justement cette thématique, le plaisir d'être encore quelques instants en compagnie de Mélanie. Ça va toujours bien, Mélanie ?
Mais toujours, merci.
Rappelez-nous à combien vous êtes dans cette grande maison.
Nous vivons à 7 dans une ferme rénovée.
Et il y a combien de pièces, au fait? Je ne vous ai pas demandé dans cette grande ferme.
Alors, il y a des pièces communes. Il y a, il y a le salon, la cuisine, une grande cave. Et le premier étage, ça fait un peu colonie de vacances. Il y a 4 chambres, une salle de bain au premier étage.
Donc, il y a des personnes qui partagent la même chambre. Hein.
Non, le même étage. Mais pas la même
étage.
Chambre.
Ah,
on s'entend bien, mais pas à ce point-là.
Voilà, parce que ça, effectivement, Lise, ça peut être plusieurs crans dans la cohabitation. Déjà, partager le même appartement avec des pièces communes, c'est déjà un défi. Mais si en plus on se retrouve à partager sa chambre avec quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément, là on monte d'un cran, peut-être dans la, entre guillemets, difficulté. Hein.
Oui, moi ça me paraît quand même être la condition sine qua non, c'est que chacun puisse avoir son espace d'intimité. Je sais pas, je pense que Mélanie, vous êtes d'accord.
Oui, totalement.
C'est important de pouvoir se retrouver de soi à soi de temps en temps quand même.
On parlera tout à l'heure d'une thématique, une subdivision assez particulière dans ce qui est la cohabitation. Ce sont les gens qui ont accueilli des réfugiés de guerre, les réfugiés ukrainiens en l'occurrence. Là, on verra que la difficulté est encore plus grande, malgré la bonne volonté de part et d'autre, parce qu'on se retrouve avec des personnes d'autres cultures, qui n'ont même pas la même langue que nous, qui ont d'autres origines. Mais avant cela, j'avais quand même envie, parce que beaucoup d'auditeurs travaillent depuis très tôt ce matin pour cette émission, mesdames, j'avais lancé effectivement cette thématique comme question du jour sur Radio Fribourg depuis notre prise d'antenne à 6h, cohabitation pour le meilleur ou pour le pire. Et vous allez entendre, mesdames, il y a des pères. Là, on avait commencé très tôt ce matin par Jojo qui nous écrivait « Je vis en coloc avec ma cousine Coco. On a même nommé notre appartement Joco. Et franchement, on mène une vie superbe. » Et Jojo qui nous écrivait tôt ce matin en profitait pour saluer sa coloc Coco. Joco, on donne carrément un nom à son appartement. Il y a beaucoup de tendresse et beaucoup de drôlerie dans ce message, Lise.
Mais c'est génial, c'est vraiment génial. En plus, là, il y a le lien de famille encore qui joue, mais sans être trop proche non plus, c'est vraiment chouette.
Ça facilite peut-être un peu les choses, effectivement. Hein. Mm-hmm. Je sais pas, vous avez donné un nom à votre ferme aussi, Mélanie?
Non. Mais c'est une bonne idée, on va y penser.
C'est une super bonne idée. Hein. On avait Léa aussi qui nous disait tôt ce matin, je cohabite avec ma grand-maman depuis quelques années, ce n'est pas toujours facile, elle a ses principes. Moi, je tiens à ma liberté du haut de mes 22 ans, mais il y a aussi beaucoup de moments de rire et de tendresse. Alors là, c'est aussi très intéressant. Cohabitation en famille, mais deux générations que plusieurs décennies séparent. Et c'est pas passé à côté de Léa, qui est une fine observatrice de la chose, hein, Lise.
Mais c'est super ce qu'elle nomme là aussi, parce que tout le monde nomme qu'il y a des moments plus complexes et des moments plus faciles, des moments plus joyeux, des moments plus difficiles. Et finalement, c'est de rester ouvert face au fait que ce n'est pas toujours tout rose. Puis on peut faire le choix de rester tranquille face à la difficulté. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend vraiment en psychokiné, c'est de faire le choix. OK, là, pour le moment, c'est complexe, mais je peux rester tranquille face à ça. Et à ce moment-là, on ne va pas se faire prendre dans la tempête tout le temps, on va juste choisir de rester sur le bord là, de l'eau et d'observer la tempête. Et avec ce pas de recul, on peut vraiment faire des choix en conscience et trouver des solutions pour que ça n'arrive plus, ou pour ajuster en fonction, ou pour communiquer de manière adéquate.
Léa, qui cohabite donc avec sa grand-maman, deux générations quand même pas mal opposées, en tout cas peut-être pas opposées, mais séparées de quelques décennies. Dans votre cas, Mélanie, cette joyeuse équipe de colocs, là, vous avez toutes et tous plus ou moins le même âge ?
Plus ou moins, on a entre 22 et 37 ans, mais on est ouvert à plus ou moins, plus jeune ou moins jeune.
Vous avez déjà eu justement des gens beaucoup plus jeunes, parce que pour expliquer à nos auditeurs qui nous rejoignent, hein, c'est pas la même équipe de colocation dès le départ. Hein. Il y a eu un roulement, il y a eu un tournus. Les plus jeunes, les plus âgés sont toujours bien arrivés à s'entendre. L'âge n'a jamais été une barrière entre
vous. Absolument pas. Non, c'est vraiment la personnalité, et puis les gens, l'histoire des gens qui font qu'on va choisir, et puis qu'on va tous bien s'entendre. Mais l'âge, en fait, on prend même pas en compte.
Patrick également, hein, sur le WhatsApp de Radio Fribourg au 079 127 70 60, il nous dit « J'ai voulu tester la cohabitation il y a 20 ans quand j'étais apprenti. J'ai tenu 2 semaines seulement. Je crois que je ne suis pas assez sociable. » Être sociable, vous pensez, Lise Jean Bourquin, qu'il faut avoir certaines prédispositions pour réussir sa colocation ?
C'est une excellente question.
Merci Patrick.
Voilà. Est-ce que c'est vraiment une question de sociabilité ? Moi, je pense pas forcément. Je pense que l'être humain, de nature, est un être sociable. Maintenant, c'est des compétences qu'on va développer ou non en fonction de ce qui se présente sur notre chemin. Et là, en l'occurrence, c'était pas ce qui lui correspondait, et puis il a bien fait de partir. Maintenant, je trouve qu'il est un petit peu dur avec lui en disant qu'il n'est pas sociable, parce que c'est de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est activé en lui pour que ça y fait que ça soit si inconfortable que ça au point de partir. Parce que des fois, il suffit d'ajuster, de regarder un peu dans son histoire, qu'est-ce qui s'est réactivé en fonction de ce qu'il vivait, pour pouvoir ensuite apaiser certaines choses et maintenir une certaine ouverture à l'autre. Mais c'est pas facile.
Mélanie, vous êtes notre spécialiste de la cohabitation. La qualité principale pour être un bon coloc, c'est quoi selon vous ?
D'être ouvert, moi je pense. Sociable, après on le devient aussi, je pense, en étant dans la coloc. C'est déjà un bon pas d'y être allé, d'avoir osé. Et puis c'est communiquer, de la communication, de savoir exprimer ses émotions, échanger. On est aussi là les uns pour les autres, pour, dans les moments où ça va moins bien, effectivement.
J'aime beaucoup le message de Denis. Je cohabite avec 2 chats et 3 chiens. Ça se passe plutôt bien. Ils arrivent à me supporter. Y a-t-il parfois des animaux qui viennent vous rejoindre, Mélanie ?
Non, il y en a qui se baladent dans le jardin. On a une fouine aussi qui se balade de temps en temps sous le toit, mais elle n'était pas invitée. Voilà. Mais sinon, non, personne n'a d'animaux dans la coloc.
Parce que ça peut être effectivement aussi des règles à poser dès le départ dans une colocation. Hein. Bon, l'animal facile entre tous, c'est le chat, il n'a pas besoin qu'on s'occupe beaucoup. Mais imaginez qu'une personne soit allergique au chat, ça aussi, Lise Jean Bourquin, ça fait partie du cadre à poser dès le départ,
c'est clair. Hein,
pour une bonne cohabitation. Hein. Merci Denis, en tout cas, on a bien souri. Hello aussi, hein. Chez nous, c'est 4 adultes et 4 enfants dans un grand chalet en campagne. Hein. 4 adultes et 4 enfants, bah, ça fait 8, hein. Encore plus nombreux que vous, hein, Mélanie. Hein. Et puis, Hello, elle est ravie, elle nous dit c'est une vraie petite tribu, le silence se fait rare, mais il suffit de trouver les bonnes personnes. Et on a une super communication, c'est que du bonheur. L'organisation est primordiale, hein, souligne Hello. On fait des cercles de chalet tous les mois pour discuter et partager nos ressentis. Alors j'imagine que les cercles de chalet, c'est tout le monde se réunit comme ça de temps en temps pour voir si tout se passe bien. C'est ce que vous faites également, Mélanie, régulièrement. Oui. Vous vous réunissez autour d'un... Ça se passe comment ? C'est autour d'un repas ? C'est une soirée
Un repas commun, ouais, toutes les 2 semaines qu'on se pose un soir. On cuisine chacun pour tout le monde. Et puis on discute des points, ça peut être le ménage, le budget, qu'est-ce qu'on va acheter dans la maison, qu'est-ce que vont modifier dans le jardin. Voilà, donc ça c'est assez... ça garde une structure, on va dire.
Ça c'est primordial, Lise, hein, une fois de plus le cadre.
C'est que chacun puisse avoir l'espace nécessaire pour s'exprimer aussi. Parce que souvent, quand il y a des choses qui nous chicanent ou qui nous chiffonnent, on garde un peu pour soi. On se dit, je peux faire le point dans ma poche jusqu'au jour où on explose.
C'est les non-dits. Les non-dits, c'est ce qu'il y a de pire. Hein. Il faut savoir dès le départ dire ce qui va, ce qui ne va pas, sans blesser la susceptibilité des personnes qui nous entourent. C'est peut-être ça la plus grande difficulté.
Apprendre à parler en jeu et laisser tomber le tu qui tue. Ah, voilà. J'adore.
Mettre un nom, autrement dit, sur une action du genre je n'ai pas aimé ce que tu as fait, je n'ai pas aimé que tu aies fumé dans le salon en même temps que j'étais là, plutôt que de dire je déteste les fumeurs, par exemple. Hein.
Voilà, et en même temps, quand on dit je n'ai pas aimé ce que tu as fait, on est déjà dans l'accusation.
C'est vrai.
C'est
vrai.
On peut dire ce comportement me dérange parce que ça. Mais ça s'apprend. Et j'ai beaucoup aimé ce que Mélanie a dit tout à l'heure sur la sociabilité, ça s'apprend aussi. On peut avoir une part de nous qui est très timide, qui est très introvertie et qui peut s'ouvrir, mais comme à l'image d'un bouton de fleur qui est en train de s'ouvrir, on ne peut pas forcer les pétales en disant ouvre-toi, 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 parce qu'on casse tout. Vraiment, pour moi, la sociabilité, la confiance, ce sont des choses qui se construisent.
C'est tellement joli l'image de cette petite fleur.
Oui, moi, je l'adore.
J'ai une autre image, vous cueillez les pétales et c'est je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. J'espère que vous adorez la cohabitation, si vous êtes en train de tester cet exercice. Admirez la transition, mesdames et messieurs. Et un terme, une manière assez particulière de cohabiter, c'est d'accueillir des réfugiés de guerre, les Ukrainiens, car c'est effectivement, malheureusement, la population qui est actuellement l'une des plus visées au monde. C'est pas la seule, mais c'est celle dont on parle beaucoup. On va en parler dans la dernière partie de Service Compris. Restez bien avec nous. Et surtout, si vous avez des expériences à partager, de riches expériences, comme les beaux messages que nous avons relayés jusqu'à -10.
Radio FR. Service Compris.
Service Compris.
Et apparemment, on ne s'ennuie jamais quand on fait de la colocation. On est d'accord, Mélanie.
Non, c'est sûr.
Mélanie, notre spécialiste en colocation, qui nous accompagne tout au long de cette émission. Merci en tout cas, Mélanie. Témoignage très intéressant de votre part, vous qui cohabitez sous le même toit dans une ferme rénovée. Vous êtes 7 au total.
Exactement.
Et puis Lise Jean-Bourquin, évidemment, notre psychokinésiologue avec qui j'ai le plaisir de cohabiter à peu près tous les mois dans cette émission pour aborder diverses thématiques. Aujourd'hui, on l'a dit, cohabitation pour le meilleur et pour le pire. Alors jusqu'à présent, Lise, on a vraiment parlé de personnes, certes qui ont des différences, notamment d'âge, mais quand même des personnes de même culture qui cohabitent ensemble. Et actuellement, ce qui se passe, c'est que des gens qui ont quand même un corps gros comme ça, je tenais à les saluer, à les féliciter, ont décidé de faire le pas et d'accueillir des réfugiés ukrainiens. Là, on est tout de suite dans un autre cadre, Lise Jean-Bourquin. On accueille avec la meilleure intention du monde des personnes qui viennent dans notre pays. Et là, la difficulté, j'imagine, dès le départ, c'est de se retrouver avec des gens qui ne parlent pas la même langue que nous. On a beau avoir des tablettes qui traduisent comme ça, mais c'est quand même pas la même chose que d'être avec des gens qui parlent français comme nous.
Non, ça c'est clair. Il y a déjà la barrière de la langue qui est là de base. Maintenant, quand on se lance dans une démarche pareille, il faut vraiment faire preuve de beaucoup d'ouverture, parce que non seulement on sait qu'on va accueillir des personnes qui ne parlent pas comme nous, qui ont des différences au niveau de leur culture, de leurs habitudes, mais on ne sait pas qui on accueille. Donc on peut très bien accueillir un couple d'une quarantaine d'années, comme une maman avec ses 3 petits-enfants, comme toute une famille. Là, j'ai des connaissances qui ont accueilli une grand-maman avec ses 2 filles, avec les 4 petits-enfants et une cousine.
Ça peut
vraiment vite
famille,
faire
là,
beaucoup de monde à la maison. Une famille entière qui arrive avec des habitudes, qui doivent réapprendre à cohabiter, parce qu'avant ils vivaient séparés, donc maintenant ils vivent tous ensemble chez quelqu'un d'autre, dans un autre pays, dans une autre culture. Certains viennent de la ville, atterrissent en campagne, et inversement, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Et vraiment, pour en psychokinésiologie, encore une fois, on parle beaucoup d'ouverture totale. L'ouverture totale, c'est vraiment cet état d'être qui reste tranquille et ouvert face à tout ce qui se passe et face à l'autre aussi. Et pour être ouvert, il faut avoir fait la paix avec tout ce qui se brouille parfois en nous, toute notre histoire, toutes nos émotions qui arrivent. Et puis, ça ne veut pas dire qu'on est ouvert, on n'aura plus jamais d'émotions. C'est juste qu'on peut rester tranquille face à ces émotions et en prendre soin, en prendre la totale responsabilité. Et pour moi, c'est important, avant d'accueillir, de se poser la question pourquoi Est-ce que j'accueille des réfugiés ukrainiens à la maison?
Voilà. On peut faire avec les meilleures intentions du monde, mais il faut quand même... C'est pas une décision qu'on prend comme ça à l'emporte-pièce.
Absolument.
Déjà, si c'est une famille qui accueille une autre famille, il faut que tous les membres de la famille d'accueil soient d'accord.
Tout à fait. Et je crois que quand on s'engage, mais sauf erreur, en tout cas c'était comme ça quand je me suis renseignée, quand on accueille, on ne sait pas à l'avance qui va venir. Donc c'est difficile de savoir vraiment à quoi on s'engage. Néanmoins, je pense que c'est vraiment important d'être au clair sur pourquoi on a envie de s'engager. Est-ce qu'on a un petit besoin de reconnaissance qui est caché quelque part? Est-ce qu'on a une culpabilité qui est cachée quelque part? Est-ce qu'on a une ouverture de cœur qui est juste énorme et qui donne envie d'ouvrir ses portes? Enfin, je trouve que c'est des questions qui sont importantes de se poser. Parce que typiquement, dans le cas de ces personnes qui ont accueilli 9 personnes, donc ils étaient très portés en fait par cette émotion d'enthousiasme et par, je sais pas si on peut dire, l'adrénaline finalement.
Peut-être un peu quand même.
D'ouvrir ses portes et puis d'être dans la générosité, etc. Mais au bout d'un mois et demi, ça s'est gâté leur histoire. Voilà. Donc c'est très important de se connecter à son pourquoi dès le départ, pour que les choses soient apaisées déjà de son côté.
Ouais. Parce que là, il y a un sacré défi d'accueillir des gens d'autres cultures, mais en plus, n'oublions pas qu'on accueille des réfugiés de guerre. Ce sont des gens qui sont déracinés, ils ont vécu un traumatisme. Certains ont vu leur maison se faire exploser par des obus russes. Donc là aussi, alors je ne sais pas si ces personnes, quand elles viennent ici, elles ont droit à un suivi ou c'est conseillé, j'imagine. Hein.
Alors écoutez, je ne me suis pas suffisamment renseignée pour répondre avec précision sur cette question.
Vous, le conseil que vous donnez? Alors,
oui, tout à fait. Non, mais j'imagine qu'il y a quand même une cellule médicale, psychologique, il y a quand même quelque chose qui a été mis en place pour pouvoir entreprendre les problématiques si elles se présentent. Néanmoins, on n'est pas tous égaux face à la relation d'aide. Et ça, je le dis très très humblement, il y a des gens vraiment qui ont cette ouverture et ce feeling et cette patience et aussi cette tranquillité face au trauma. Donc là, j'entends les professionnels de la santé ou peut-être certains particuliers qui ont cette fibre-là de base. Néanmoins, on peut vite se laisser comme si on imagine épongé par cette énergie de trauma et ça devient vraiment lourd pour tout le monde.
C'est ce qu'on appelle un transfert en psychologie.
Voilà.
Hein, ouais.
Si on fait l'éponge et qu'on en vient à souffrir avec l'autre, là ça devient problématique. Et il ne faut pas se leurrer, il y a des gros traumas chez ces réfugiés parce que certains ont perdu des proches.
Bien sûr.
Voilà, ça reste une guerre. Et là vraiment, mon message ce matin, c'est d'appeler à l'aide, c'est de demander de l'aide.
Ne pas hésiter, bien sûr.
Parce que tout le monde n'est pas psychologue.
C'est clair, c'est pas donné à tout le monde, c'est un don. Et vous avez ce don, en tout cas, Lise, de savoir écouter les gens, leur donner des bons conseils, ce qu'on apprécie énormément chez vous, à chaque fois que vous venez, vous qui êtes psychokinésiologue dans cette émission, Service compris. Une dernière question que j'avais envie de poser à Mélanie, notre spécialiste en cohabitation. Elle est en colocation, ils sont 7 dans une ferme rénovée. Un conseil comme ça à donner à des personnes qui aimeraient tenter l'expérience de la colocation à plusieurs.
Allez-y, faites des recherches, faites des entretiens, c'est sympa, vous risquez rien à aller visiter puis à aller connaître d'autres personnes. Et au pire, si ça se passe mal, vous partez.
Voilà. C'est très bien. Merci pour ce très bon conseil. Simple et efficace. Mélanie, Lise Jambourquin, des lectures, des ateliers à nous conseiller autour de cette thématique de la cohabitation.
Alors, autour de cette thématique, pas vraiment. J'ai toujours mes ateliers qui sont lancés. Donc, l'atelier autour du burn-out, l'atelier pour la gestion du stress, de l'emploi du temps, le j'arrête de courir. Et puis, l'atelier pour les mamans qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle Maman épanouie. Voilà, donc c'est une soirée par mois, sur toute une année scolaire, où on va se retrouver pour apprendre des outils de psychokinésiologie. Parce que c'est vraiment ça ma mission, c'est d'enseigner.
Lise Jambourquin, psychokinésiologue, maman de 3 enfants. Vous avez une très belle petite famille, Lise. Donc j'imagine que toutes ces mamans qui échangent, ça nous donne de belles soirées.
Ah oui, c'est vraiment génial. Et de voir qu'on est toutes dans le même bateau, ça fait quand même du bien.
On vous trouve sur votre site internet www.lisejambourquin.ch. Merci Lise, portez-vous bien, à tout bientôt.
Avec plaisir.
Et merci encore Mélanie.
Merci à vous.
Merci à nos auditrices et auditeurs qui ont témoigné très nombreux depuis très tôt. Je vous ai fait bosser et ça a porté ses fruits sur le WhatsApp de Radio Fribourg au 079 127 70 60. Un grand merci à toutes et à tous. L'actualité à 9h et notre grand jeu, le 5 sur 5 dans quelques instants. Gaëlle, tout de suite sur